En 1881, le naturaliste Charles Darwin, qui avait déjà publié 22 ans plus tôt son célèbre ouvrage « L'origine des espèces », édite son dernier livre. Il s'intitule « La formation de terres végétales par l'action des vers ». Résultat de 44 années d'observations très fines, de mesures minutieuses, ce livre traite d'une manière très large de l'importance de l'action des vers de terre sur des sujets aussi variés que la formation de la terre, l'érosion, la fertilité du sol et même l'intelligence de ces animaux. Avec cet ouvrage, Darwin se pose comme l'un des précurseurs de l'écologie du sol. Les éditions L'Élan des mots ont eu la bonne idée de rééditer cet ouvrage. Et on en parle cet après-midi avec celui qui en a signé la préface, celle qui en est l'une des spécialistes des vers de terre, Pierre-Henri Gouillon et Céline Pelosi. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue Pierre-Henri Gouillon, vous êtes agronome, généticien et professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Céline Pelosi, vous êtes écologue spécialiste de l'écologie des sols et chargée de recherche à l'INRAE. On va donc se retrouver dans un instant pour parler de l'importance de ces créatures en apparence peu glorieuses, les vers de terre dans la terre au carré, donc avec les messages des auditeurs franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À 14h30, on vous retrouve avec Camille Passauvert.
C'est l'eau de Volvic qui en fait avaler certains de travers, je vais vous expliquer pourquoi.
Bonjour Guy Vanctil.
Bonjour à toutes et à tous.
14h45, vous signez une nouvelle série de reportages sur les préparatifs des Jeux Olympiques qui débuteront après un an de retard le 23 juillet à Tokyo.
Et il semblerait qu'à Tokyo, comme pour Paris en 2024, on nous prépare des JO écolo en béton.
Et dans le son de la Terre, Jérôme Seur nous fera entendre tout à l'heure le son des volcans. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée par Chantal Le Montagnier avec à la technique Ronan Mahé.
Mathieu Vidard. La Terre au carré. Sur France Inter.
Il y a 30-40 ans, on avait dans une terre cultivée, dans une terre céréalière, on avait entre 1,2 tonnes, 1,5 tonnes de vers de terre. Aujourd'hui, on est à 200 kilos, voire 50 kilos dans les grandes plaines céréalières. Le vers de terre, c'est vraiment le marqueur de la bonne santé des sols. C'est-à-dire que si vous avez un sol qui est riche en matière organique, en fait, vous aurez des vers de terre. Si vous avez un sol minéral, les vers de terre vont tout simplement mourir de faim, en fait.
La voix de l'agronome Christian Gatineau, c'était au micro de France 3 Nouvelle-Aquitaine en 2018. Les vers de terre superstars, dossier de la terre au carré cet après-midi, donc avec nos invités, l'agronome Pierre-Henri Gouillon et l'écologue Céline Pelosi. Pierre-Henri Gouillon, donc vous avez signé la préface de ce livre de Charles Darwin, La formation de terres végétales par l'action des vers de terre, réédité chez L'Élan des mots. Préface dans laquelle vous vous demandez comment le grand Charles Darwin a pu prendre le temps d'écrire un livre entier sur des créatures, dites-vous, aussi peu glorieuses que les vers de terre. Bon, c'est de la provoque, évidemment, ça.
C'est de la provoque. En réalité, je pense que ça a surpris. Darwin avait publié en 1859 L'Origine des espèces. Avant ça, il avait déjà publié toute une série de livres sur ses découvertes dans son tour du monde, qui a quand même duré 4 ans, hein, sur le Beagle.
Ouais.
Et après ça, il a publié des livres absolument majeurs comme L'ascendance de l'homme et la sélection en relation avec le sexe. Il a publié des livres de botanique absolument majeurs aussi sur le sexe des plantes. Il a publié des livres sur l'expression des émotions chez les animaux et chez les humains. Ouais. Bon, et puis, dernier truc, les vers de terre, ça fait drôle, quoi. Et,
ouais. Et de crépuscule de sa vie, en plus. Hein, c'est un moment tout à fait particulier. Hein. Il est malade.
Alors, il est malade depuis longtemps. Ouais. Les historiens se discutent de savoir ce qu'il a attrapé comme maladie au cours de son voyage. Est-ce que c'était la maladie de Chagas? Et déjà, il avait fait quand même des travaux sur les mouvements des plantes.
Ouais.
Là, c'était un peu le même genre. C'est-à-dire, regarder une plante qui s'enroule doucement autour d'un piquet, faut avoir le temps. Hein.
Et
il expliquait que le fait d'être riche et malade, ça aidait quand même pour faire des trucs comme ça où il fallait juste pas bouger pendant longtemps, quoi.
C'est ça. Et c'est ce qui lui a servi pour l'observation des vers de terre,
absolument,
du coup.
Hein. Ceci dit, en plus, il avait une vie extrêmement réglée. Hein. Je vais pas vous dire son emploi du temps de tous les jours, mais enfin, c'était vraiment, il y avait le matin, après le petit déjeuner, et faire son courrier. Ensuite, il avait travaillé un peu, ensuite il y avait le repas, après il y avait le petit concert au piano de sa femme, et ensuite il y avait les petites manips dans son jardin avec ses enfants ou avec ses petits-enfants.
C'est
donc il faisait des expériences très régulièrement, ça faisait partie de son emploi du temps journalier.
Il y a Francis, son fils, qui est souvent cité d'ailleurs, avec lequel il fait des expériences sur les vers de terre. Céline Pelosi, ça représente quoi quand on est spécialiste des vers de terre comme vous, un tel ouvrage? Il est encore scientifiquement totalement de référence, ou les choses ont quand même beaucoup évolué au fil des expériences?
C'est toujours bien d'actualité. Les observations que Darwin avait faites, elles n'ont pas forcément été réitérées.
Ouais.
Donc c'est vrai que voilà, il avait le temps et l'argent. Nous maintenant, la recherche, on a moins le temps et moins l'argent.
Ouais. Voilà. Donc c'est très utile d'avoir des livres comme ça.
C'est très utile et en fait, bien sûr, on apprend plein de choses quand on lit ce genre d'ouvrage. Et en fait, Darwin, à l'époque où les animaux étaient encore considérés comme des machines, il a donné leur lettre de noblesse au ver de terre.
Ouais.
Et c'est absolument extraordinaire, quoi.
Pierre-Henri Gouillon, vous dites qu'aujourd'hui, on a la microbiologie qui a permis aussi de faire énormément de progrès, ce que ne connaissait pas Darwin, ce qui fait que du coup, avec cette science plus récente, on a appris quand même beaucoup de choses nouvelles sur ces vers de terre.
Oui, il n'y a pas doute que l'écologie des sols a progressé depuis Darwin. Il y a tout l'aspect microbien d'une part, et puis même au niveau des vers de terre, il y a eu quand même la découverte du fait qu'il y avait plusieurs sortes de vers de terre, ceux qui restent en bas, ceux qui restent en haut, ceux qui font des mouvements de bas en haut. Ça m'étonne qu'il ne l'ait pas vu, d'ailleurs, je dois dire, avec le sens d'observation qu'il avait, j'ai été étonné de ne pas le trouver la première fois que j'ai lu ce livre, je me souviens.
Il parle des vers de terre, ça c'est quelque chose qui m'a frappé en relisant le bouquin, parce que je l'avais déjà parcouru. C'est quelque chose qui m'a frappé, le fait qu'il ne fasse pas de distinction sur même les morphotypes, c'est-à-dire l'aspect des vers de terre, il met tout le monde dans le même panier.
Ouais.
Et c'est assez étonnant. Et aussi sur l'aspect microbio, tout ce qui est dégradation des matières organiques, c'est vrai qu'il n'y a pas de mention de ça dans le bouquin c'est des choses que maintenant on connaît beaucoup mieux.
Pierre-Henri Gouillon, il y a
que ça, il a fallu Pasteur quand même pour qu'on commence à comprendre l'action des micro-organismes, et Pasteur, c'est en même temps, en gros, que l'écriture de ce livre. Donc, Darwin ne pouvait pas avoir accès à ce type de réflexion à l'époque.
Ouais. Il meurt un an plus tard, la parution justement de cet ouvrage. Quel lien il y a finalement entre la théorie de l'évolution de Darwin et ce livre sur les vers de terre? Parce qu'il y a quand même un lien direct. Hein.
Absolument, oui. Ça, c'est ce que j'ai trouvé fascinant. Moi, j'enseigne Darwin depuis des années, et j'en parle dans des conférences, et une des difficultés pour comprendre la théorie darwinienne, c'est de comprendre qu'un processus aussi bête que la sélection naturelle, c'est-à-dire j'ai des trucs qui se reproduisent, leurs descendants leur ressemblent plus ou moins, et en gardant ceux qui réussissent le mieux dans un environnement donné, et en recommençant sur de nombreuses années, et sur de très nombreuses générations, sur ce qu'on appelle le temps long, en biologie et en géologie, eh bien on finit par avoir des effets énormes. Et ça c'est quelque chose de très contre-intuitif. On a beaucoup plus de facilité à comprendre un processus d'apprentissage qu'un processus de simple sélection. Et pourtant, Dieu sait si aujourd'hui tous les trucs d'intelligence artificielle nous montrent ça, c'est-à-dire que on voit bien que des grands joueurs de Go se font battre par une machine qui a appris uniquement comme ça, qui n'a jamais appris la moindre partie de Go, mais qu'on a laissé apprendre simplement en sélectionnant des coups qui marchent, quoi. Donc, or Darwin avait beaucoup de mal. Alors Darwin n'invente pas cette idée que le temps long permet d'accumuler énormément de choses, mais il le prend à son prof de géologie, Lyell. Avant ça, au début du 19e, avec Cuvier, on pensait qu'il y avait eu des catastrophes qui avaient rythmé l'histoire de la Terre, que de temps en temps, il y avait des grands effondrements qui fabriquaient les vallées, des grandes surrections qui faisaient monter les montagnes, etc. Et c'est Lyell qui va dire non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est juste des petits tremblements de terre accumulés qui font les montagnes, c'est l'érosion d'une rivière comme le Colorado qui va finir par creuser un grand canyon. Mais ce sont des très petits effets accumulés sur des temps longs et ça aboutit à ça. Darwin va reprendre cette idée pour la sélection naturelle dans l'origine des espèces et il reprend cette idée dans les vers de terre. Même si chaque vers de terre fait pas grand chose, l'accumulation.
En apparence.
Voilà. L'accumulation sur le temps long de l'action des vers de terre et sur le nombre de vers de terre, parce que c'est aussi quelque chose qui était quand même, qui est remarquablement documenté. Alors pour le coup, eh bien, ça finit par faire des effets macroscopiques,
quoi. Céline Pelosi, c'est l'effet cumulatif. Alors c'est ça, parce que finalement, les vers de terre, ce sont deux petits tremblements de terre, justement, qui donnent de gros effets à la fin.
Oui, tout à fait. C'est la force du nombre et de la diversité et de la biomasse que les vers de terre représentent dans le sol, qui font que petit à petit, tout change.
Ouais. Il y a un autre grand nom de la science des vers de terre, c'est Marcel Boucher, quelqu'un qui vit toujours et qui a apporté énormément à la connaissance. Et on va l'écouter dans cet extrait nous parler d'un aspect tout à fait particulier de ces animaux.
Darwin a mesuré la quantité de turricules, ces petites crottes de vers de terre qu'il y a à la surface et qui sont bien utiles pour nous faire des lits de semences quand on fait du semis direct. La quantité de terre qui passe dans le tube digestif des vers de terre est de l'ordre de 300 tonnes à l'hectare par an. Et que cette terre, en plus, provient pour une partie de leurs propres fesses, c'est-à-dire ils consomment la matière organique, la mêlent à la matière minérale et ils vont digérer, évidemment, et déféquer ils laissent leurs fesses dans le sol, mais reviennent les consommer quelques mois plus tard.
Leurs fesses ou leurs crottes, leurs fesses, hein, c'est ça.
Leurs fesses.
Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il veut dire Marcel Boucher. Donc on voit l'effet de ces animaux hein, à l'échelle d'un hectare, par exemple, de terre. C'est absolument considérable, Céline Pelosi. Hein.
Ah oui, tout à fait. Darwin le décrit très bien dans ses observations. Hein. Il explique que effectivement, il y a en fait des déjections qui sont mises à la surface du sol et que ça représente environ 10 tonnes par an. Sur à peu près un demi-hectare. Ouais. Donc c'est colossal. Et c'est ça, c'est cette remontée de matière organique mélangée de la matière minérale qui représentent en fait un gain en surface en terre végétale.
Donc les vers de terre sont des laboureurs précieux, Pierre-Henri Gouillon. Hein.
Oui, ils sont des laboureurs précieux. Je pense que c'est un autre point très important. Je pense qu'on va y revenir plusieurs fois au cours de cette émission. C'est justement que toute l'agriculture, au fond, repose sur l'action de ces vers de terre et que c'est quelque chose qu'on a un peu oublié. Moi, quand j'étais étudiant à l'agro, le rêve de beaucoup d'agronomes, dans les années 1970, hein, c'était que le sol devienne un truc absolument amorphe. Hein. Ouais. De manière à ce qu'on soit pas embêté avec tous ces trucs vivants dont on ne sait jamais exactement s'ils vont faire ce qu'on veut, et puis qu'on contrôle les 5 cm du haut, et là, on mettrait tous les produits chimiques qu'il faudrait, les semences qu'on voudrait, rien d'autre, et comme ça, on contrôle les 5 cm et on laisse le reste mourir. Et ça, c'est quelque chose qui marche pas. Maintenant, on le sait. Et du coup, il faut vraiment revenir à une compréhension du sol infiniment plus complexe et plus riche que celle-là.
Son livre, Darwin, il l'a écrit, il n'y avait pas de produits chimiques. Est-ce que ça changerait beaucoup s'il réécrivait ce livre aujourd'hui, par exemple, vous pensez?
Oui, je fais une petite remarque. Quand on dit produits chimiques, on emploie un mot que tout le monde emploie. Évidemment, les puristes vont vous dire que produit chimique, c'est idiot, puisque tout produit est chimique. Hein. Donc, ce qu'on veut dire, c'est produit de synthèse. Hein. Voilà.
Donc, phytosanitaire.
Je dirais produit, c'est comme pour dire, non, phytosanitaire et engrais, etc. J'emploie le mot produit chimique pour que tout le monde comprenne. En réalité, je veux dire produit de synthèse.
Voilà. Et alors, pour répondre à la question de Camille.
Et effectivement, si Darwin, avec ce genre de point de vue, était aujourd'hui, je pense qu'il serait atterré par ce qu'on est en train de faire dans le milieu de l'agriculture, ça j'en suis certain.
Ouais.
Parce que justement, il avait bien compris énormément de choses, il avait bien compris justement toute la puissance de la vie du sol. Et si jamais il était aujourd'hui, il aurait la microbiologie en plus, donc ça serait encore mieux. Et il se rendrait compte de la destruction qu'on opère chaque jour. Parce qu'aujourd'hui, en gros, en agriculture industrielle, on ne sème jamais une semence sans qu'elle soit enrobée de pesticides. Et donc, ces semences enrobées de pesticides viennent empoisonner les sols, les eaux, l'air. Et donc, on est en train de tuer toute cette activité pourtant extrêmement utile. Donc je suis sûr que Darwin serait atterré s'il voyait ça.
Voilà, et je suis sûr que vous-même, Céline Pelosi, êtes atterré parce que vous faites, vous, ces expériences pour comparer justement un sol fertile avec ou sans pesticides et leur action sur les vers de terre. Et vous avez des résultats totalement catastrophiques. Hein.
C'est-à-dire qu'on obtient des résultats, très factuellement, on obtient des résultats qui montrent qu'effectivement, il y a des effets néfastes des pesticides sur certains traits d'histoire de vie. On parle de traits d'histoire de vie, donc de la croissance, de la reproduction des vers de terre. C'est-à-dire que les pesticides ne vont pas forcément tuer les vers de terre, mais ils vont affaiblir les populations.
Ouais.
Et donc, par là, toutes les fonctions bénéfiques que les vers de terre ont sur le sol.
Et donc avec des effets en cascade. Hein.
Tout à fait.
On se retrouve dans un instant. On poursuit cette discussion autour des vers de terre avec vos messages sur franceinter.fr. Drifting in. Highway 27, c'était Wootkid.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Alors les vers de terre se nourrissent de débris végétaux, de charognes et même de leurs propres déjections. Et c'est peu dire qu'ils éveillent chez leurs cousins humains des sentiments mitigés. Ils sont pourtant la biomasse animale la plus importante des terres émergées. Bah, voire plus que les humains. Petite question, comme ça, combien d'entre vous veulent être géodrilologue quand vous serez grand? Pour rappel, un géodrilologue, c'est un biologiste spécialiste des vers de terre, comme moi. Vous croyez peut-être que j'en ai pas marre, moi, de perdre mon temps avec des gamins qui croient plus en rien? Vous avez quoi comme ambition, pour vous-même? Et pour les autres, surtout? De manière, moi, j'en ai rien à foutre, hein, dans 50 ans, je serai plus là, mais vous, les enfants, vous allez prendre cher, vous. Ouh, vous allez voir, les écosystèmes vont s'occuper de vous, et salement.
Bon, on applaudit bien fort le papa de Marion pour son exposé.
Voilà, c'est le film Perdri d'Erwan Leduc avec Nicolas Maury en 2019. Vous parlez pas comme ça aux enfants, Céline Pelosi, quand même.
Non, non, on essaye de les amener à aimer les vers de terre.
Oui. Ouais. Donc il y a d'autres moyens d'en parler. Et donc vous êtes géodrilologue, vous aussi?
Ben oui.
Hein, exactement. Vous êtes nombreux ou pas?
Oui, on est un petit peu. Ben, au niveau international, il y a un symposium qui se réunit tous les 4 ans.
Ouais.
On y est environ 200.
Très bien. SAC pour étudier toutes les facultés des vers de terre.
Tout à fait.
Ah bon?
Tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce à quoi ils peuvent servir, voilà.
Camille, il y a plein de questions des auditeurs déjà sur franceinter.fr.
Oui, il y a un qui nous écrit et qui nous demande quelle est la toxicité exacte du glyphosate sur le vers de terre et quels autres pesticides de synthèse nuisent au vers de terre, Pierre-Henri Gouillon.
Alors c'est plutôt Céline Pelosi,
Céline Pelosi.
Allez. Puisque c'est vous qui avez fait les travaux sur les...
Alors, vous voyez hocher la tête.
Oui, alors personnellement, je n'ai jamais travaillé sur le glyphosate. J'ai jamais fait de manip sur le glyphosate. Maintenant, voilà, on sait qu'il y a des effets, non pas des effets létaux aux doses appliquées, mais des effets chroniques d'application, consécutive dans un champ cultivé.
C'est quoi? C'est parce que c'est un sujet politique, le glyphosate, que vous êtes un peu...
Un tout petit peu, oui. Un tout petit peu, mais bon voilà, après moi je vous parle de résultats scientifiques publiés, et il y a des études qui disent oui, il y a des études qui disent non. La chose c'est qu'en écotoxicologie, en fonction des conditions d'exposition des organismes, on peut avoir tout et son contraire. Donc ce qui est difficile, c'est d'avoir une vision la plus systémique possible, c'est-à-dire quel est l'effet du glyphosate au champ, tel aux doses où il est appliqué, dans les conditions dans lesquelles il est appliqué.
Mais pourquoi on ne l'étudie pas? Je ne comprends pas.
Si, alors. Si, il est étudié. Ah, il y a des études au laboratoire, bien sûr.
Mais alors la science dit quoi? Nous, on voulait pas une réponse politique, c'est une réponse scientifique.
Il y a des effets sur la reproduction, pas aux doses agronomiques pour le glyphosate, de ce que j'ai en mémoire, mais je n'ai pas revu mes copies avant de venir. Donc c'est des doses, plutôt des doses accumulées dans les sols.
Donc vous, c'est d'autres produits que vous avez utilisés pour vos travaux?
Alors moi, j'ai étudié plutôt les fongicides, les conazoles, qui sont des molécules qui posent quand même pas mal de questions.
Les fongicides qui sont donc pour tuer des champignons.
Champignons, ouais, exactement. Et donc, c'est des molécules qu'on retrouve beaucoup dans les sols,
ouais,
et dans les vers de terre, qui s'accumulent pas mal dans les sols et dans les vers de terre, et qui posent des problèmes, puisqu'on avait retrouvé des doses dans les sols en conditions naturelles, qui peuvent mettre en danger la reproduction des vers de terre.
Pierre-Henri Gouillon, en complément?
Oui, j'ai deux choses à ajouter. La première, c'est qu'il n'y a pas une incitation très forte pour les chercheurs à faire ce genre d'études. D'autant que ces études, elles sont officiellement faites par les entreprises elles-mêmes et que, du coup, il y a plein d'instances de régulation qui considèrent qu'une fois que les entreprises les font elles-mêmes, il n'y a plus besoin de les refaire.
Oui, ce qui est un non-sens quand même. Hein.
Et voilà, c'est un non-sens absolu. Ça fait des années que nous, on demanderait, un certain nombre de gens qui s'occupent de ces questions, à ce qu'il y ait une agence indépendante qui fasse les évaluations et que ces agences indépendantes soient financées par les entreprises, mais qu'elles soient indépendantes et qu'elles dépendent pas d'eux. Alors que, tant que ces entreprises elles-mêmes, on ne sait jamais qu'est-ce qu'ils nous montrent comme vrai résultat, comme pas vrai résultat, etc. On sait qu'il y a beaucoup de mensonges dans ces domaines. Mais il y a quand même un article tout à fait extraordinaire. Alors je vais sortir un tout petit peu des vers de terre, je vais vous parler d'abeilles, mais on va revenir aux vers de terre tout de suite, vous allez voir pourquoi. Un article sur les abeilles qui a été publié par les producteurs de pesticides, hein, c'est pas des écolos, en fait, c'est les producteurs de pesticides. Ils ont publié le fait que 75% des herbicides et 78% des fongicides tuaient les abeilles. en toxicité chronique, c'est-à-dire pas tuer comme ça, craque direct, je mets dessus, elle meurt, mais si jamais j'en mets de façon répétée, ça tue les abeilles. Or, quand on est biologiste, on sait très bien qu'un fongicide, c'est fait pour tuer un champignon, un herbicide, c'est fait pour tuer une plante. Si ça tue les abeilles, ça veut dire que ça tue tous les animaux. Parce que une abeille, c'est infiniment plus proche d'un ver de terre, ou d'un humain d'ailleurs, que d'une plante. Donc si vous faites un truc qui est fait pour tuer les plantes et que ça tue les abeilles, mais c'est sûr que ça tue les vers de terre. Alors, c'est pas le glyphosate, c'en est un parmi tout cela. Et malheureusement, dans leur article, ils donnent pas la liste des produits dont ils reconnaissent eux-mêmes que ça tue les abeilles. Mais je suis à peu près convaincu, effectivement, que le glyphosate en fait partie. Et du coup, eh bien, effectivement, on peut être à peu près sûr. Vous voyez, il n'y a pas que le glyphosate. C'est une immense majorité de tous les produits qu'on met, que ça soit pour tuer les mauvaises herbes, que ça soit pour tuer les champignons qui nous embêtent ou pour tuer les insectes. Eh bien, tout ça, ça tue l'ensemble du monde vivant.
Céline Pelosi, en complément.
Oui, je voulais juste dire que en ce qui concerne l'homologation des pesticides, effectivement, il y a des procédures, il y a beaucoup de remises en question de la pertinence des procédures avant la mise sur le marché des pesticides pour les abeilles, mais aussi pour les vers de terre, notamment le fait qu'on ne teste pas les produits sur les bons stades de développement, on teste sur les adultes, il faudrait aussi tester sur les jeunes. Et effectivement, il y a très peu de tests a posteriori, on parle d'évaluation a priori avant de mettre sur le marché, et a posteriori, nous chercheurs, on n'a pas la force de frappe pour tester tous les produits. Il y a plus de 500 molécules qui sont actuellement sur le marché. Et on n'a pas les moyens de tester tout dans tous les sens.
Une autre question de Gilles sur franceinter.fr. Quels sont les mécanismes qui permettent aux vers de terre de s'alimenter et de s'hydrater, Céline Pelosi ?
Eh bien, écoutez, de s'alimenter, ils ingèrent la matière organique en décomposition dans les sols. Donc, ils ingèrent la matière minérale et la matière organique. Et l'eau du sol également, ils vivent dans la... Ils ont besoin d'un sol constamment humide, puisqu'ils ont une respiration cutanée. Et donc, ils ne sauraient vivre dans un sol sec.
Ça, on voit très bien dans les écrits de Darwin, hein, Pierre-Henri Gouillon, c'est que la terre, une fois digérée par justement le ver de terre, eh bien, devient vraiment une autre substance. Hein. Il y a quelque chose qui se passe une fois qu'elle est passée par le ver de terre.
On peut appeler ça de l'humification, fabrication de l'humus. Hein, donc, c'est effectivement tout ce travail de digestion. Les vers de terre ont des sucs digestifs qui leur permettent de digérer justement ce qui traîne dans les sols et qui leur permettent effectivement de se nourrir grâce à ça. Et donc, ça fait partie là des choses qui sont bien regardées par Darwin dans ce livre.
Il y a anatomiquement, pardon, ça se passe comment ? Il y a une bouche, les vers de terre ont une bouche. Comment c'est ?
Ah oui, ils ont... Vous savez, tous les êtres vivants sont constitués avec un point de départ. C'est, vous voyez, vous avez un embryon au départ, et la première chose qu'il va falloir décider, c'est où se trouve la bouche, où se trouve l'anus. Et une fois que vous avez fait le tuyau entre les deux, vous pouvez construire des machins autour. Mais on est d'abord tous constitués comme un tuyau avec une bouche d'un côté, un anus de l'autre.
Donc, donc il y a un tube digestif.
Et il y a un tube digestif entre les deux, chez nous comme chez eux. Et donc, ils vont avaler avec leur bouche de la terre, enfin ce qu'il y a dans le sol, et fabriquer de la terre avec, en gros.
Ouais. Céline Pelosi, Darwin avait observé les muscles puissants des vers de terre, un système musculaire bien développé, impressionnant.
Tout à fait, ils sont très étonnants, ils sont capables de creuser, notamment quand les conditions ne sont pas bonnes, ils s'enfouissent en profondeur,
ouais.
Et ils sont même capables de passer des semelles de labour, c'est-à-dire qu'il y a une... Au fond, après un labour, à force de labour, il y a une surface compacte qui se produit à environ 25 cm. Et peu d'organismes sont capables de la passer, sauf certains vers de terre qui ont la musculature nécessaire.
Mouse costaud.
Ouais. Monica voudrait savoir la durée de vie d'un vers de terre.
Alors, on ne sait pas trop. Moi, je dirais qu'on ne sait pas trop. On parle de 1 à 8 ans. On parle de 1 à 8 ans. Et en fin de compte, en fonction des espèces, ceux qui vivent en profondeur...
Combien d'espèces ?
Eh bien, en France, il y en a environ 150, mais dans le monde, il y en a...
Et en France, on ne peut pas tester les 150 espèces pour savoir laquelle vit.
Vous croyez qu'on va obtenir de l'argent pour faire ça ?
Ah, ça serait super. Alors, j'essaierai de déposer un projet. Je ne me donne pas beaucoup de chance.
On va lancer un mécénat pour vous.
Je
ne
me donne pas beaucoup de chance de réussite au dépôt de projet.
Le problème, c'est que ce que fait Darwin, c'est qu'il le fait parce qu'il a envie de
le temps. Il a l'argent.
En science, c'est très difficile de faire une recherche juste parce qu'on a envie de savoir quelque chose. Il faut montrer que ça va servir à quelque chose. Et là, ben voilà.
Et on parlait de la force des vers de terre. Il y a tout une étude aussi sur les pierres lourdes, celle de Stonehenge par exemple, sur le site de Stonehenge. Et d'ailleurs, il dit, les archéologues peuvent remercier les vers de terre, hein, parce qu'ils font un boulot extraordinaire pour préserver justement les outils. Mais ils sont aussi capables, sur le long terme justement, d'agir sur des pierres extrêmement lourdes, Pierre-Henri Gouillon.
C'est-à-dire que quand les pierres extrêmement lourdes, elles sont très lourdes, mais elles reposent quand même sur du sol. Et donc, ce que les vers de terre peuvent faire, c'est prendre le sol en dessous, le remettre à côté, donc progressivement. Et c'est remarquable, effectivement, Darwin regarde à quelle vitesse les vestiges archéologiques sont enfouis par les vers de terre et on n'imagine effectivement pas, a priori, quand on voit qu'un vestige s'est un peu enfoui dans la terre, que c'est des vers de terre qui ont fait ça. Et donc,
absolument.
Ça fait partie des grands moments du livre.
Oui. Ouais, il faut le dire parce que, en plus, c'est hyper accessible pour le coup. C'est un vrai récit totalement accessible par n'importe quel néophyte. Ça s'appelle La formation de terre végétale par l'action des vers. Donc, Charles Darwin.
Ça fait classe.
Exactement. J'ai lu mon Darwin et c'est publié donc à l'élan des mots. On continue la discussion dans un instant avec d'autres questions pour vous.
France Inter. La Terre au carré.
Camille passe au vert à 14h31 et Camille en Auvergne aujourd'hui.
Oui, vous vous souvenez de la pub Volvic qui disait un volcan s'éteint, un être s'éveille. Et bien là, ce qui est éveillé, réveillé même, et très réveillé, c'est une polémique à cause de l'eau minérale propriété du groupe Danone depuis le début des années 90. Accusé par plusieurs associations de prélever trop d'eau avec des conséquences dans tout le secteur, comme chez Édouard de Féligonde.
En 1927, on avait 470 litres secondes. En 1960, on avait 500 litres secondes, et cette année, j'ai eu environ, en moyenne annuelle, 40 litres secondes. Et pendant 5 mois de l'année, on est complètement à sec.
Alors, Édouard de Féligonde, il est propriétaire de la plus vieille pisciculture d'Europe à Saint-Genest-l'Enfant, dans le Puy-de-Dôme. Donc, monument historique classé, datant de 1651, pardon. C'est là où des générations d'enfants se sont succédées pour apprendre à pêcher. Mais aujourd'hui, voilà ce qui se passe dans les 50 bassins en pierre de Volvic.
Tous les murs s'effondrent.
Voilà, en raison du manque de pression, du manque d'eau, dit-il. Et le coupable se situe en amont, selon lui, l'usine Volvic. Christian Amblard, chercheur honoraire au CNRS en hydrobiologie et habitant lui aussi du secteur, enfonce le clou.
On voit plus l'eau dans les ruisseaux. Par contre, on voit bien l'eau passer, mais elle passe sur la route, dans des bouteilles plastiques, dans des camions, comme activité durable. Eh bien, on peut sans doute faire mieux.
Alors, pour que vous visualisiez un petit peu, oui. Il y a donc Volvic, la ville, hein, c'est pas une source, Volvic. L'eau est arrivée plus haut, à une altitude de 900 mètres, de l'eau de pluie qui s'infiltre, parcourt ensuite plusieurs kilomètres dans les roches volcaniques souterraines, se charge en minéraux et hop, la voici prête à être prélevée, captée à Volvic, à 50 mètres ou 100 mètres de profondeur, par les 5 forages creusés exprès pour. Et Cathy Lehec, directrice des ressources en eau chez Danone, ni que le groupe soit à l'origine des tarissements, chiffre à l'appui.
Dans un potentiel de gisement, donc c'est-à-dire un potentiel d'eau, en 2020, qui a été estimé par des hydrogéologues experts, à environ 12 milliards de litres. Et nous, en 2020, nous avons prélevé en deçà de notre autorisation, puisqu'on a prélevé 2,3 milliards de litres.
Voilà, 2,3 milliards de litres. L'autorisation était de 2,8 milliards de litres. 2,3 milliards de litres, c'est 22% de la nappe, quand 51% sont utilisés par les collectivités et 27% s'écoulent dans le milieu naturel. Donc, Volvic se dédouane totalement, donc elle le dit, hein, on a prélevé moins qu'autorisé, et pointe un autre coupable.
Je comprends que chacun souhaiterait que Volvic ait la réponse à un changement climatique. Or aujourd'hui, les experts évoquent qu'il y a 30% de recharge en moins et que la raison de cette baisse de la recharge, c'est le climat.
Alors pourquoi donc, pour vous, les sources tarissent uniquement parce que le climat,
La raison de réduction de la quantité de capacité de l'eau dans la nappe est liée à l'évolution de température. Les résultats sont formels, à savoir que l'augmentation de la température diminue la recharge de la nappe.
Donc vous n'y êtes pour rien, c'est ce que vous me dites.
Donc la baisse...
Non mais répondez-moi, pardon, donc vous n'y êtes pour rien.
La baisse de capacité de l'eau dans la nappe n'est pas liée à Volvic, elle est liée à l'évolution climatique.
Argument qui ne convainc pas du tout les opposants.
Mais non, le problème que non, il n'y a pas eu d'aspect qui peuvent expliquer cela en termes de moindre pluviométrie, c'est pas vrai.
Non, il n'y a aucun effet sécheresse. Ça, c'est vraiment de la fake news.
De la fake news, disent Christian Amblard et Édouard de Féligonde, comme un autre habitant en aval, lui aussi, François-Dominique de Larousière, géologue, ancien directeur scientifique de Vulcania, qui vous schématise ce qui se passe selon lui.
En fait, c'est un petit peu comme si on avait une baignoire, le débordement alimentait les sources, mais les forages qui ont été faits pour prélever de l'eau pour mettre en bouteille sont en train de vider la baignoire par le bas. En siphonnant par le bas.
Le tout avec une ineptie, dit-il, de la part de l'État, cette fois, l'autorisation de poursuivre les prélèvements pour Volvic, même en cas de sécheresse, quand les autres doivent se restreindre.
L'arrêté sécheresse qui a été publié par le préfet le 31 mars 2021 dit aux gens, s'il y a une sécheresse, s'il y a une canicule, vous n'aurez plus le droit d'arroser votre jardin, nettoyer votre voiture, arroser vos plants de tomates. Par contre, nous, on exclut les eaux minérales.
Et la directrice des ressources en eau de Danone confirme, l'eau est captée, été compris, puisque la demande est forte.
L'embouteillage s'accroît du mois de mars jusqu'au mois de juillet et ensuite donc redécroît jusqu'à la fin de l'année.
Et est-ce que vous comprenez qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que eux doivent se restreindre alors que pendant ce temps-là, vous continuez à pomper des litres et des litres d'eau ?
Des efforts doivent être faits, des efforts doivent être faits par tout le monde. Sur ces trois dernières années, nous avons économisé 380 millions de litres, hein, c'est-à-dire 14% en dessous de notre autorisation. Et là, en ce moment, on travaille sur de nouvelles technologies d'embouteillage au niveau de l'usine pour que dans un horizon à 2025, on double la quantité d'eau que l'on ne prendra pas dans la nappe.
En gros, passer sous la barre des 2 milliards de litres d'eau prélevés, hein, ça fait environ 2 millions de mètres cubes, contre, je vous l'ai dit tout à l'heure, 2,3 milliards de litres aujourd'hui. Mais continuer l'activité hein, qui emploie 900 personnes à Volvic et permet même, dit Cathy Lehec, de protéger la nappe phréatique. François-Dominique Delarosière et les autres, vous l'aurez compris, ne sont pas du tout sur la même ligne.
L'eau, c'est un bien commun. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et l'eau fait partie de ces biens communs de l'humanité qui n'ont pas à être privatisés.
Et cette question de la privatisation de l'eau hein, ne se pose pas qu'à Volvic. Il y a aussi des polémiques à Vittel en ce moment avec le groupe Nestlé Waters. Et ailleurs en France, où je le rappelle hein, quand même, nous consommons 9 milliards de litres par an en bouteilles plastiques. Ça fait environ 135 litres par habitant.
Et c'est Camille Passauvert que vous pouvez bien sûr écouter sur la page de la Terre au Carré.
Pierre-Henri Gouillon, est-ce que les pompages comme ça, alors là c'est Danone à Volvic, mais ça existe donc, je le disais, ailleurs en France, est-ce que ça peut avoir une incidence sur les sols, sur l'activité des sols et surtout l'écosystème alentour?
Bah écoutez, oui, évidemment, hein, c'est clair que quand on vide les nappes phréatiques, eh ben on prépare des sécheresses. Je ne connais pas précisément la situation de Volvic, mais je pense qu'effectivement les changements climatiques jouent sur ces problèmes de sécheresse. Et donc, puisqu'on sait qu'il va y avoir des changements importants au niveau climatique, on sait qu'il va y avoir des sécheresses plus grandes, donc il faudrait le préparer. Il y a ce qu'on appelle une transition à faire au niveau de l'agriculture. Et cette transition, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne se fait pas vite, en tout cas elle ne se fait pas à la bonne vitesse. Et quand on voit des entreprises comme Volvic ou autres qui sont pas prêts non plus à faire une vraie transition et qui jouent à la marge sur quelques pourcents, eh ben on voit bien que ça marchera pas. Deux choses à cette transition, on voit constamment les industriels nier leurs responsabilités. C'est pareil qu'avec ce qu'on disait sur la biodiversité tout à l'heure. Les industriels des pesticides prétendent que c'est pas de leur faute si la biodiversité s'effondre, alors que évidemment c'est de leur faute. Et on est toujours dans ces difficultés où les États continuent à donner des autorisations alors qu'on sait qu'il ne faudrait pas continuer. Et on est en train de préparer quelque chose de tout à fait affreux sur ce plan-là, puisque le ministère de l'Agriculture est en train de lancer un truc qui s'appelle le Varenne pour la transition agricole. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font le contraire de la transition. Ils sont en train de préparer le fait de dire aux agriculteurs, continuez à faire des cultures qui sont complètement inadaptées à la sécheresse. Et vous inquiétez pas, on va vous faire une assurance, on vous remboursera si la sécheresse vous tue vos plantes. Voilà ce que l'État est en train de faire actuellement, d'encourager les agriculteurs à ne pas s'adapter au changement climatique.
On y reviendra demain puisqu'on fera une émission, le dossier consacré au bilan des nappes phréatiques et justement à la sécheresse. Ce sera le dossier demain de la Terre au Carré. Allez, les vers de terre, on y revient dans un instant.
Tourner dans l'allée, entendre les séquoias chanter.
Quand j'ai marché dans l'allée des séquoias, j'ai respiré en entier pour une fois.
Oh,
habiter mon propre corps pour la première fois. J'ai bien gardé tous les secrets du vent, entremêlés, la salle épaisse et mon sang.
Les séquoias, c'était la voix de Pomme.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
On parle vers de terre avec Céline Pelosi et Pierre-Henri Gouillon qui a signé la préface de ce livre, La formation de terre végétale par l'action des vers. C'est le livre de Darwin qui a été retraduit du coup par les éditions L'élan des mots, Pierre-Henri Gouillon.
Ils sont repartis d'une traduction préexistante mais ils l'ont revue. Sur divers aspects, quoi.
En tout cas, c'est un vrai cours de science aussi, hein. C'est de l'éthologie pure. Darwin regarde, il réfléchit, il fait des observations, il teste. C'est vraiment la démarche scientifique. Et alors, il parle aussi de l'intelligence des vers de terre. Il parle de leur faculté mentale. C'est quand même incroyable, ça.
Ça, c'est un passage moi qui m'avait déjà choqué la première fois. Et quand je l'ai revu récemment, j'ai été encore plus, comme je l'ai revu en détail, j'étais encore plus séduit. Parce que Darwin constate donc que les vers de terre utilisent des feuilles, entre autres, pour boucher leur galerie de manière à ce que le froid de la nuit ne rentre pas dans leur galerie. Et il constate que quand il les attrape, les feuilles, ben, ils les prennent pas n'importe comment.
Ouais.
Et du coup, il va faire des manips où il va découper des petits bouts de papier en triangle pour voir comment le vers de terre attrape le bout de papier. Et il montre que, quelle que soit la manière dont il dispose le bout de papier, eh ben, le vers de terre prend systématiquement le bout de papier de la façon optimale pour obtenir l'effet qu'il veut. Donc, c'est pas juste, il fait n'importe quoi, puis tant mieux si ça marche. Le vers de terre donne l'impression d'avoir une intelligence qui lui permet d'optimiser son action. Et ça, les manips n'ont jamais été refaites. Et c'est incroyable. Voilà une chose qui est proposée par Darwin. Et on n'a jamais réétudié ça. Et on sait pas comment ça marche. On sait rien du tout.
Darwin écrit « Les vers ont une répugnance prononcée à laisser béante l'ouverture de leur galerie ». Camille.
Alain qui voudrait savoir la question qu'on se pose tout le temps tous. Hein, est-ce qu'un ver de terre coupé en deux, ça fait deux vers de terre ou est-ce qu'il meurt, hein, Céline Pelosi?
Bon, dans le meilleur des cas, ça en fait un.
Ouais. Il peut survivre quand même. Alors.
Ah oui, il peut survivre s'il est coupé après toutes les structures sexuelles. Voilà. C'est-à-dire que après ce qu'on appelle le clitellum, qui est une bague, on a tous déjà vu sur les vers de terre une espèce de bague. Hein, s'il est coupé après et de façon relativement propre, il survivra.
Il se pose la question de la douleur d'ailleurs, Darwin. Hein.
Oui, voilà, c'est ça.
Quand on les blesse comme ça. Et alors la réponse, c'est quoi?
En fait, il y a une réaction puisque dans la plupart du temps, quand ils sont coupés, ils rentrent en diapause. C'est-à-dire qu'ils se mettent en léthargie pour reformer les anneaux, une partie des anneaux.
On est d'accord juste que le bout coupé ne peut pas reformer un nouveau
vers. Absolument
verre,
pas.
Peut-être, hein. Emmanuel qui voudrait savoir s'il existe des vers géants. Ça peut mesurer combien de vers de terre?
Oui, tout à fait.
Ah oui, faites-nous peur un peu.
Ça dépend. Alors en France, les plus gros, ils sont dans le sud de la France et ils mesurent. Il y en a qui sont très longs. Donc dans les Vosges, il y en a un qui peut mesurer jusqu'à un mètre.
Oui.
Et après, le diamètre, il y a des vers très gros qui peuvent mesurer, qui font jusqu'à 100 grammes.
Ah 100 grammes. Ça fait un bon steak déjà.
Ah oui, bien sûr. Ouais. Ils ont un diamètre.
Faites gaffe si vous croisez le vers de terre des Vosges.
Quelle horreur, le steak de vers de terre.
Non, vous inquiétez pas, ça ne mange pas les humains.
J'ai pas envie de le manger.
Ça mange que de la terre.
Il y a une autre question, Camille?
Oui, Lorraine qui voudrait savoir, Pierre-Henri Gouillon, si on peut réintroduire des vers de terre dans son jardin et si oui, comment?
Ça c'est un petit peu compliqué, mais oui, a priori il n'y a pas de raison, et d'ailleurs le pour faire du compost, c'est une bonne idée d'aller mettre des lombrics dans un compost pour faire du lombricompostage. Donc bien sûr, alors comment? Il faut se les procurer, et ça je pense que voilà,
Céline, vous avez des pistons.
Alors en fait, nous on travaille à l'INRA d'Avignon sur la revitalisation des sols par inoculation de vers de terre.
Oui.
Et donc des vers de terre et non pas des vers de compost qui sont très utiles pour ceux qui savent faire, mais qui ne sont pas des vers de terre, ils ne se maintiennent pas dans les sols naturels. Donc oui, il y a des recherches sur l'amélioration de la fertilité des sols par l'inoculation de vers de terre qui doit s'accompagner nécessairement de changements de pratiques et d'apport de matière organique.
Et comment on se les procure alors ces vers de terre? Parce qu'on ne peut pas en acheter aussi.
Il y a des sociétés qui se développent et qui produisent des vers de terre.
Ah donc on peut en acheter en fait.
Ouais. Bientôt on pourra en acheter, oui.
Allez, direction le Japon, car c'est le moment de retrouver Guy Van Til qui nous a rejoint pour le premier épisode de sa série de reportages sur les JO écolo en béton, alors que le chantier des Jeux de Paris 2024 avance à grands pas. Guy, eh bien, on commence à Tokyo, à moins d'un mois des Jeux initialement prévus l'an dernier.
Et tout le monde l'a oublié, mais ces compétitions, qui se dérouleront finalement sans supporters étrangers et avec test Covid quotidien, promettaient d'être un grand rendez-vous écolo avec zéro carbone, zéro déchet, des arbres dans la ville. Avant la pandémie, les organisateurs avaient même préparé une foultitude d'initiatives éco friendly, durable et tout le tralala. Comme de collecter des vieux smartphones pour en extraire l'or des médailles, médailles qui seront remises sur des podiums en plastique recyclé, gracieusement offerts par Procter & Gamble, le géant de la grande distribution. Sauf que quand on gratte un peu sous les slogans, à Tokyo comme à Paris, les beaux discours écolos et les grands projets bétonnés font rarement bon ménage.
Be with that together.
Tokyo!
For the planet and the people.
Tokyo!
We are united in our humanity.
Let's go!
Donc, je suis Tristan Lavier, je suis en charge de la communication internationale du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020. Et là, le nouveau lieu Instagram du moment à Tokyo, des anneaux olympiques de 2 à 3 mètres, où tout le monde vient se prendre en photo avec la vue du stade derrière.
Ouais, c'est ce que font les deux dames qui sont devant nous, là, qui se passent là pareil. Là.
Ouais, tu vois.
Vous voulez qu'on vous prenne en photo toutes les deux, mesdames?
Ah, voilà, parce qu'elles se sont prises en photo l'une après l'autre.
Tease.
Voilà.
Là, on est dans le jardin extérieur de Meiji, qui est un poumon vert très calme, où le stade des Jeux de 1964 a été construit. Et sur ce même emplacement, on a construit le stade des Jeux Olympiques de 2020.
Flambant neuf, avec derrière une rangée d'arbres qui sont aussi flambant neufs.
Oui, il y a 47 000 arbres et arbustes qui ont été plantés à la fois autour du stade, mais aussi dans le stade. L'architecte Kengo Kuma, qui est assez célèbre pour vouloir toujours travailler avec le bois, a vraiment voulu en faire un arbre au milieu de la forêt, il a dit. Les coursives sont entièrement en bois.
C'est comme des planches fixées à l'extérieur.
Mais aussi derrière, on essaye d'intégrer tout un tas de technologies pour limiter l'impact environnemental. Donc le stade devant lequel on est, par exemple, a des panneaux solaires, a également des endroits pour récupérer l'eau de pluie qui permettra d'arroser ces 47 000 arbres qui ont été plantés, mais également aussi dans sa construction pour limiter des besoins énergétiques. Il y a des aérations juste sous le toit qui permettent de créer un courant d'air qui va venir rafraîchir les tribunes naturellement. Et encore une fois, on va faire des jeux avec 100% d'électricité provenant d'énergie renouvelable. L'hydrogène sera utilisé pour les torches olympiques pendant le relais de la flamme. L'hydrogène, c'est un carburant qui ne produit pas de CO2.
Going green.
Tokyo veut faire de ses JO 2020 un modèle d'écologie.
The 2020 Olympics are going green.
Les dirigeants des prochains Jeux clament qu'ils seront les plus novateurs de l'histoire.
Be with that together, for the planet and the people.
Je m'appelle Toyoyuki Kawakami.
Rainforest Action Network.
Et je travaille pour le Rainforest Action Network.
Rainforest Action Network, rappelle-toi, c'est une ONG internationale basée aux États-Unis pour la forêt pluviale. Vous devez être ravi que les Jeux Olympiques soient à ce point placés sous le signe de l'écologie et de la protection de la forêt.
Ce serait bien si c'était vrai, mais malheureusement, on doit dire qu'ils sont vraiment loin du compte. Nous nous sommes rendus compte que pour la construction de ce stade, le bois qui est utilisé pour former les caissons dans lesquels on coule le béton, ce bois vient d'Indonésie, de forêts tropicales, où vivent notamment les orang-outans, et ce bois provient donc de la déforestation qui a pour but de planter à la place de la forêt des palmiers à huile.
Tokyo Olympique, on a 進めたわけなので、本当それが日本を変える。
au départ, je trouvais magnifique justement qu'on mette en avant la durabilité des jeux et je me disais que c'était une occasion unique de changer le Japon. Et le fait qu'on n'ait pas saisi cette opportunité, c'est vraiment désolant.
Alors on continue notre balade. On est toujours sur les abords de ce gigantesque stade, tout de béton, avec tout un tas d'arbres et de bacs à fleurs. Et sauf qu'on n'est pas avec un des promoteurs de ces Jeux Olympiques, on est avec au contraire un de ces quelques Japonais qui disent non aux Jeux.
Atsumi Masazumi, to imasu.
Je m'appelle Masazumi Atsumi.
Vous sortez un énorme tableau. C'est une carte, une photographie aérienne du site olympique.
Ce que cette carte montre, c'est le site avant tout ce qu'on a détruit, tout ce qu'on a déplacé pour construire le nouveau stade olympique. Mais juste à côté de cet ancien stade, il y avait un parc qui est très connu à Tokyo parce qu'il est souvent utilisé pour des manifestations. Et juste à côté de ce parc, il y a aussi un groupe d'immeubles qui était l'équivalent des HLM en France. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont détruit l'ancien parc en détruisant les immeubles qui était à côté. Et donc ce qu'on voit, c'est justement l'impact qu'a ce type de projet sur la communauté. Et comme vous voyez, c'est vraiment énorme. Les gens qui critiquent le stade, en fait, ils disent que ça ressemble à un gros Big Mac.
C'est pas faux en plus, parce qu'avec toutes ces planches extérieures là, qui sont posées, et cette forme circulaire et sphérique, et puis avec les petites jardinières qui ressemblent un peu à la salade qui dépasse d'un Big Mac, l'image est assez juste, oui.
Voilà, JO de Tokyo, les arbres qui cachent le béton. Un reportage que vous signez, Guy Vanquil, a retrouvé en podcast sur franceinter.fr. Demain, on revient en France sur le chantier là des JO de 2024.
Oui, en direction de la Seine-Saint-Denis, on nous promet des jeux toujours plus verts, en coulant toujours plus de béton.
Merci beaucoup, à demain, Guilive. Allez, encore quelques questions autour de nos vers de terre, Camille, sur franceinter.fr.
Fabien voudrait savoir si les vers de terre apportent les minéraux nécessaires aux plantes. Peut-on parler, nous demande-t-il, d'une forme de symbiose? C'est possible ça ou pas?
C'est une pélosie.
Oui, tout à fait. Il a été prouvé que le passage du sol par l'intestin des vers de terre modifiait les propriétés des nutriments et notamment les rendait plus facilement assimilables par les micro-organismes et par les racines des plantes.
Ouais, Darwin a remarqué que les vers de terre étaient insensibles à sa propre haleine lorsqu'il mâchait du tabac, Pierre Régouillon, donc il a vraiment tout testé. Hein.
Ah, il fait toujours des manips absolument incroyables, effectivement. Ouais. Quand il voit les fourmis qui touchent les pucerons pour leur faire produire du miel là avec leurs antennes, et ben lui il essaye avec ses cheveux et puis ça marche pas. Alors voilà, mais là donc il essaye de voir si jamais les vers de terre sont sensibles aux odeurs et il trouve que même une odeur aussi désagréable que ça ne fait pas réagir les vers de terre.
Patrice nous demande si la solution pour protéger le petit monde du sol pourrait passer par un labour léger. Est-ce que ça vous pensez que c'est possible, Céline Pélosi?
Oui, alors il y a des... Tout à fait, alors les labours profonds, effectivement, ça c'est de moins en moins
préconisé,
voilà, surtout. Le problème, c'est surtout le retournement, c'est ça qui provoque pas mal de pertes en matière organique des sols. Et donc, ça peut être souvent, on parle de grattage du sol sur quelques centimètres. Ouais. Pour autant, pour avoir étudié différentes modalités de travail du sol, on se rend compte que si on met d'un côté le non-labour total, le semi-direct, on appelle ça, et le labour, et qu'entre les deux, on met du travail superficiel, au niveau des résultats vers de terre, le travail superficiel se rapproche souvent du labour conventionnel.
En tout cas, Pierre-Henri, il nous reste 10 secondes.
Je voudrais dire que du coup, le non-labour complet, c'est très très bien, à condition de ne pas du coup mettre des tas de pesticides.
On peut lire donc la formation de terre végétale par l'action des vers. C'est publié aux éditions L'Élan des mots. C'est signé Charles Darwin. Vous en signez la préface. Et c'est absolument passionnant. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans la Terre au carré. On termine avec le son de la Terre.
France Inter. La Terre au carré.
Bonjour Jérôme Sueur.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu. Bonjour Camille.
Aujourd'hui, Jérôme, pour votre dernière chronique du son de la Terre, eh bien, on termine justement avec le son de la Terre, c'est bien ça?
Oui Mathieu, oui c'est ça, avec plus précisément le son des volcans. Alors, nous sommes en train d'entendre la lave du volcan islandais Fagradalsfjöll, enregistrée en éruption en mars dernier et enregistrée ici par Francesco Fabris. Ces derniers mois ont été marqués par l'activité parfois dramatique de nombreux volcans. Le Pacaya au Guatemala, le Taal aux Philippines, l'Etna en Italie, le Nyiragongo en République démocratique du Congo, ou encore le Piton La Fournaise à La Réunion, ici capté par Fernand Deroussen en 1998. Réveille et tremble dans des explosions parfois extrêmement intenses, comme ce fut le cas du volcan Krakatoa.
Alors, que s'est-il passé?
Alors, Camille, après 200 ans de sommeil, le 27 août 1883, à 10h02 exactement, le volcan, coincé dans le détroit de la Sonde, entre Sumatra et Java, explosa d'une manière si violente qu'il provoqua le son le plus intense jamais entendu de mémoire d'homme. L'explosion, d'un équivalent de 100 à 150 mégatonnes de TNT, généra une impulsion sonore phénoménale qui s'entendit jusqu'à Alice Springs, en Australie, à quelques 4800 km de là. Des variations barométriques de 20 000 pascal furent enregistrées à Jakarta. Transformé en pression acoustique, le niveau atteignit 180 décibels à 160 km, soit plus de 280 décibels à 1 mètre, une valeur difficilement imaginable en comparaison, par exemple, d'un aspirateur bruyant qui atteint à peine 80 décibels. L'explosion du Krakatoa généra une onde sonore insupportable pour nos oreilles, mais elle produisit aussi des ondes sonores totalement inaudibles.
Et de quoi il s'agit alors, Jérôme ?
Alors, il s'agit d'ondes très graves, Mathieu, trop graves pour nos tympans. On parle d'infrasons. Des ondes qui se propagent sur d'immenses distances à travers des guides d'ondes thermiques. Au printemps 2010, le volcan islandais Eyjafjöll entra en éruption et dégagea de tels nuages de cendres qu'une partie du trafic aérien fut arrêtée, on s'en souvient. Cette éruption produisit des infrasons qui furent détectés jusqu'à 3500 km de distance. En utilisant un réseau de 60 capteurs à infrasons répartis dans le monde entier et normalement dédiés au suivi des explosions nucléaires, il s'est avéré possible de suivre et de localiser à plus de 10 000 km de distance l'activité du volcan islandais. La surveillance de l'activité volcanique est habituellement réalisée par la mise en place de sismographes ou par des images satellitaires. Il est cependant impossible d'équiper tous les volcans et les images satellitaires sont dépendantes de la météo, des nuages pouvant cacher évidemment les cratères. L'acoustique infrasonore apparaît donc comme une alternative au suivi de l'activité volcanique. Mais c'est aussi au plus proche que s'écoutent les volcans, comme dans cet autre enregistrement de Fernand Deroussen, réalisé cette fois sur le volcan Arenal du Costa Rica, où se mêlent des craquements de blocs de lave et des cliquettements de grillons nocturnes. Et ainsi s'écoule le son de la vie, et ainsi s'écoutent les sons de la Terre.
Et l'activité volcanique du Costa Rica, le son de la Terre. Merci beaucoup Jérôme Sœur de nous avoir fait entendre toute la diversité des sons de la nature tout au long de cette année avec le Muséum National d'Histoire Naturelle. Et vous avez un petit message pour cette dernière chronique.
Oui, un immense merci aux 56 preneurs de sons, chercheurs et musiciens qui ont partagé plus de 140 sons durant toute cette année. Sans eux, il n'y aurait eu ni science du son, ni son de la science.
Merci à eux et merci beaucoup à vous.
À bientôt, Jérôme.
À très bientôt. Merci.